Alors bonjour à tous, soyez les bienvenus, ceux qui sont auprès et ceux qui sont au loin, comme dirait le pape Orbi et Urbi. Je ne vais pas parler le latin, rassurez-vous. Alors ce que je fais souvent, c'est bonjour à ceux qui sont là depuis 2 ans, après 6 ans, etc. Alors je ne vais pas vous faire le coup ce matin. Ce que je vais faire, c'est demander à ceux qui sont de plus de 30 ans dans l'Église. Il y en a pas mal. Alors, est-ce que c'est bien? C'est des gens qui s'accrochent, c'est des gens qui contribuent à la communauté, c'est souhaitable. Est-ce qu'il y en a qui sont là que depuis le mois de mars? 6 mois? La personne? Oui? Je peux vous demander juste de vous présenter? Aïe, aïe, aïe! Juste en vous levant, le nom, prénom. Oui, Marie Parnigoni. Et puis ok, ben soyez les bienvenus, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être là. Aujourd'hui, on va parler de la présence de Dieu. Vous me direz, ce n'est pas très original, mais de la présence visible. On va parler de la transfiguration, et Célina nous apportera un message basé sur ce sujet. Parce que la présence visible avec les yeux, ce n'est pas courant non plus, mais ça arrive. On peut voir avec les yeux de la foi, mais aussi on peut voir la présence de Dieu avec les yeux qu'on a sur la tête. Est-ce que ça vous est arrivé? Je ne sais pas. Moi, je vais vous partager 2 expériences que j'ai vécues dans ma foi, dans mes moments de prière, dans mes moments de recueillement. Alors, le premier, je vais laisser passer le premier slide. Ça s'est passé au bord de la mer, à cet endroit-là. C'était dans une région auprès de Perpignan, Saint-Cyprien, pour ceux qui connaissent, dans le sud de la France. J'étais parti marcher tôt le matin pour prier et j'ai vraiment senti, alors j'ai rien vu, mais j'ai senti la présence de Dieu d'une manière vraiment très particulière. Ça m'a touché, j'ai l'impression que Dieu était devant moi et marchait à côté ou marchait devant moi. Et c'était vraiment une expérience presque troublante, mais très très forte. Et c'est arrivé là. Ça, c'est pour la première expérience. La deuxième, c'est arrivé en relation avec l'Église. Deuxième slide. Alors, c'est des beaux nuages. Ce n'était pas tout à fait comme ça. J'ai trouvé ça sur Internet. J'étais invité à animer une réunion de prière à l'Église, en fait, même dans les annexes. Donc, ça fait un certain temps. Et puis, je me suis dit, bon, je vais me préparer. Je vais venir à l'Église, comme d'habitude. Je prends ma voiture, parce que le temps était menaçant, comme sur la photo, et la voiture ne démarre pas. Je me dis, bon, c'est pas grave, je vais prendre mon scout. Je crois que le scout a été crevé. Je me dis, ah ben là, ça se complique, parce que je n'avais plus le temps de venir à pied. Alors j'ai pris mon vélo, et comme le ciel était extrêmement menaçant, je me suis dit, ça va vraiment mal finir. Donc j'ai vraiment prié que je puisse arriver à l'église, plus ou moins sec. Et en arrivant à l'église, les nuages sont mis sous forme d'une arche, comme si je passais sous une arche. Et vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il y avait des nuages et ça faisait une arche complète. J'ai passé dessous avec mon vélo jusqu'à l'église. J'ai pu animer la réunion de prière. J'ai d'ailleurs raconté cette image. Il y en a peut-être qui s'en souviennent. Et après, ben, juste une fois dans l'église, il y a eu un déluge, un orage, mais épouvantable. Et ça a duré longtemps, à tel point que Sylvain, qui est là, m'a ramené à la maison avec le vélo dans le coffre. Donc, effectivement, Dieu peut se manifester dans nos vies. Et puis, je me disais, vous, est-ce que vous avez aussi des expériences ou est-ce que c'est silence radio? Alors, je ne répondrai pas à la question, c'est à vous de répondre. Est-ce que si on a des expériences comme ça, est-ce que c'est une question de foi? Est-ce que celui qui vit quelque chose a une foi plus grande que l'autre? Et je pense que la réponse est non. C'est des cadeaux que le Seigneur nous donne, qui consolide notre foi, qui la fortifie. Et c'est des choses que Dieu donne, et, de temps en temps, comme ça, comme cadeau. Alors, je crois que ça, effectivement, ça consolide, ça fortifie notre foi, et c'est juste un cadeau immérité, comme tous les cadeaux de Dieu. Alors, Célina va vous donner un exemple beaucoup plus précis avec la transfiguration, et on parlera tout à l'heure. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu es présent, merci parce que de temps en temps tu te manifestes à nous de manière particulière. Je te demande de bénir ce culte, de bénir chacun et que nos cœurs soient vraiment tout ouverts pour recevoir ce que tu nous offres. Merci pour cette matinée, merci pour ce culte, merci pour cette belle journée ensoleillée. Amen. Alors on va passer à la louange avec le groupe Louange en les remerciant d'avance pour tout ce travail, toute cette préparation.
Jésus seul est mon espoir, et ma lumière, ma force, mon chant angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, oh, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait.
La louange, c'est pas seulement nous qui disons quelque chose à Dieu, nous venons ici aussi pour l'écouter. Parle-nous, Seigneur.
Il y a quelque chose pour eux tout à l'heure en bas, alors ils peuvent rejoindre leur groupe et juste prier avant qu'ils partent. Seigneur, nous te prions d'accompagner les moniteurs, d'accompagner les enfants et qu'ils puissent aussi vivre quelque chose de fort ce matin. Nous te les remettons dans le nom de Jésus. Amen.
Est-ce qu'on peut fêter Ayana qui fête ses 10 ans aujourd'hui?
Bien sûr, bravo. Elle fête ses 10 ans ce matin. Allez, bonne fête. Alors, je vous laisse descendre, les enfants. On peut continuer.
Voilà, nous invitons pour un quatrième et dernier chant qui exprime le cœur de notre foi. Cet extraordinaire paradoxe que celui qui a la gloire, c'est celui qui est venu vers nous comme serviteur et qui a donné sa vie.
Thank you.
Merci au groupe de louanges de nous avoir aidés à nous réjouir en sa présence. Alors, pour la prédication de tout à l'heure, je vais lire le texte de la Transfiguration dans Luc 9, verset 28. Environ une semaine après qu'il eut parlé ainsi, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur une montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain, il y eut deux hommes qui s'entretenaient avec Jésus, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient au milieu d'une gloire céleste. Ils parlaient avec Jésus de la façon dont il allait réaliser sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses compagnons s'étaient profondément endormis, mais ils se réveillèrent et virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ces hommes quittaient Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, il ne savait pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait ainsi, un nuage survint et les couvrit de son ombre. Les disciples eurent peur en voyant ce nuage les recouvrir. Du nuage, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils que j'ai choisi. Écoutez-le. » Après que la voix eut parlé, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ce temps-là ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu.
Je m'installe. Bonjour à chacun, en attendant. Vous allez bien ? Ouais ? Vous êtes en forme ? Ouais. J'espère que je ne parlerai pas un peu du nez, hein, parce que j'ai un peu le rhume. Vous me dites si jamais. Donc ce matin, c'est en haut d'une montagne que je vous emmène. Alors je vous rassure tout de suite, je vous épargne l'effort de l'ascension pour nous retrouver directement au sommet. L'effort, nous allons le laisser à Jésus, Jacques, Pierre et Jean. Je pense qu'il peut déjà mettre le... Voilà. Donc, ce sont des disciples essoufflés que nous retrouvons au sommet du mont Hermon, la montagne où la grande majorité des spécialistes situent la transfiguration de Jésus. Nous sommes à plus de 2400 mètres d'altitude sur un sommet enneigé. Cette ascension est un véritable pèlerinage, une démarche spirituelle nécessaire. Ils se rendaient sur cette montagne légendaire pour prier. C'est comme si les disciples, à la suite de Jésus, emboîtaient le pas aux plus illustres personnages de la tradition juive. Ceux qui avaient à leur tour gravi un sommet pour rencontrer Dieu. Mais sans doute ne s'attendit-il pas à la rencontre extraordinaire qu'ils allaient faire là-haut. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain, il y eut là deux hommes qui s'entretenaient avec Jésus. C'était Moïse et Élie. En haut de la montagne, le visage de Jésus devient illuminé d'une blancheur éblouissante. Et là apparurent à ses côtés Moïse et Élie. Juste que je retrouve mon slide. Je trouve pas. Est-ce que tu pourras passer quand je te dis ? Donc là, tu peux mettre la... Voilà. Moïse et Élie, deux légendes de l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce que cela signifie qu'ils soient là ? Et ici, ce matin, j'ai besoin de vous pour y répondre. Car l'apparition de Élie et de Moïse nous pousse à raviver, à questionner, à réveiller notre Ancien Testament. Alors je vais vous lancer une première question et puis vous pouvez me répondre. Lorsque ce texte vous parle de Moïse en haut d'une montagne, à quoi cela vous fait-il penser ? à la loi, au mont Sinaï, exactement. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Moïse avait reçu les lois de Dieu au mont Sinaï. Deuxième question. Lorsque ce texte vous parle de Élie sur une montagne, à quoi cela vous fait-il penser ? Au sacrifice, oui. Oui, mais il y a eu un autre... Hein ? Voilà, exactement. Bravo, Boris. Élie s'était caché en haut d'une montagne et Dieu lui a dit « Quand tu m'entendras, tu sortiras. » Il y a eu un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Il y a eu un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et puis ensuite, il y a eu un souffle léger et c'est un murmure. Et c'est là que Élie reconnaît la parole de Dieu. Un encouragement fort pour lui. Et la troisième question, lorsque le visage de Jésus se met à briller, à quel épisode de l'Ancien Testament cela vous fait-il penser ? Moïse, exactement. Moïse qui avait la face qui brillait, il était obligé de mettre un voile devant lui pour ne pas effrayer les gens. Bon, merci, hein, je vois que vous maîtrisez votre Ancien Testament. Oui ? Aussi, oui. Ouais. Voilà, exactement, sur le mont Nebo. Ouais. Voilà, exactement. La disparition de Élie et Moïse, je répète, hein, parce qu'il n'y a pas de micro, de Élie et Moïse pour, qui restent un petit peu inexpliqués. Donc, grâce à vos réponses, nous pouvons avoir une compréhension un petit peu plus profonde de ce qui se passe ici, parce qu'effectivement, il faut se référer à l'Ancien Testament. L'apparition de Élie et de Moïse est significative. Elle rappelle la manière dont Dieu s'est révélé à son peuple pour lui montrer le chemin à suivre. Le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui s'appelle Malachie, disait ceci à la fin de son livre. « Souvenez-vous de ce que mon prophète Moïse a enseigné. Observez les règles et les lois que je lui ai données sur le mont Horeb, ou mont Sinaï, pour tout le peuple d'Israël. Avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, je vous enverrai le prophète Élie. Il réconciliera les pères avec leurs enfants et les enfants avec leurs pères. Ainsi, je n'aurai pas à venir détruire votre pays. » Moïse et Élie représentent ici les racines profondes qui ont fait naître le peuple de Dieu, un peuple à qui une promesse a été confiée. C'est comme si cette conversation entre Élie, Moïse et Jésus était une réconciliation des temps, des générations. Malgré le temps qui passe et les accidents de l'histoire, et il y en a eu beaucoup, les promesses de Dieu demeurent en vigueur. Tu peux mettre le slide après. L'événement de la transfiguration est un événement détonnant. Il est un événement à part, non seulement dans son aspect surnaturel, mais aussi dans le sens profond qu'il véhicule. Lorsque Dieu nous fait voir sa grandeur d'une manière si frappante, c'est comme si on se retrouvait en dehors de l'espace et du temps. Comme si on sortait de notre monde pour y trouver Dieu. Le Dieu tout-puissant, le Seigneur qui règne dans le ciel et sur la terre, un Dieu transcendant. La transcendance de Dieu, c'est en gros une manière de dire que Dieu est bien différent de nous, bien plus grand, bien plus puissant, qu'il règne dans une dimension dans laquelle nous avons très peu accès. Un mystère qui nous intrigue et à la fois qui nous attire. Cela nous donne une impression d'un Dieu infiniment grand, face aux limites de la condition humaine. Nous, nous sommes petits, pécheurs et mortels. Mais lorsque Dieu se révèle de manière si fulgurante, c'est pour offrir au monde une voie sur laquelle avancer. Et je tiens à le souligner ici. Si Dieu nous fait voir son infinie grandeur, c'est pour nous montrer qu'il est souverain, souverain sur notre monde et souverain dans nos vies. Et cela nous ouvre une voie, là où souvent on peut voir des obstacles insurmontables, une montagne immense à gravir au milieu de notre chemin. Cette montagne devient alors une montagne de la révélation. La révélation de Dieu au monde de la transfiguration est capitale pour le chemin que vont devoir emprunter les disciples. Car voilà que Jésus leur a annoncé à ses disciples, juste avant la transfiguration, je vous lis ce qu'il dit juste avant. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les grands prêtres et les spécialistes des Écritures le rejetteront. Il sera tué et le troisième jour, il ressuscitera. Et il disait à tous, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » L'annonce de la mort de Jésus a été un réel choc pour ses disciples. En croyant que Jésus était le libérateur d'Israël, celui que Dieu avait choisi, il était alors inconcevable qu'il soit vaincu par la mort. C'est d'ailleurs de cette mort dont parlent Moïse, Élie et Jésus sur cette montagne. Jacques, Pierre et Jean sont les témoins de cette conversation improbable. Je pense que la vision de Jésus transfiguré a été un soutien spirituel important lorsque les disciples ont assisté au calvaire de Jésus et aussi ensuite par leurs propres difficultés d'apôtres dans le monde. L'être humain peut être mis à mort, c'est vrai, mais on ne peut pas tuer Dieu ni son plan de secours pour le monde. Dans la vie, il peut nous arriver de vivre ces moments hors du temps où Dieu se révèle de manière inouïe. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous, comme Daniel, auraient des beaux récits à nous offrir à ce sujet. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous voir, Philippe et moi, si vous auriez une fois envie de vivre un culte de témoignage. À la suite de Jésus, nous avons tous notre croix à porter. Un chemin du calvaire pour mettre fin à ce qui nous fait mourir à petit feu et qui génère tant de souffrances en nous et autour de nous. Cela peut paraître un chemin infranchissable, une montagne inaccessible. On peut se sentir déprimé, découragé, impuissant face à notre propre chemin de la croix. Mais c'est face à une révélation telle que la transfiguration que l'impossible devient possible. Car Dieu parle. Dieu s'offre au monde. Tu peux mettre celle d'après. Dieu fait voir son visage au travers de celui de Jésus. Voir enfin la face de Dieu. Voir le visage de Jésus Dieu et voir le visage de Jésus humain. C'est voir l'infinie grandeur en même temps que la fragilité la plus sensible. Voir un visage, c'est plus qu'une image ou un masque figé. C'est une vraie rencontre, une histoire à qui souhaite voir et à qui souhaite se laisser dévoiler. J'avais envie de vous lire quelques mots d'un philosophe qui a énormément écrit sur le visage. Il s'agit d'Emmanuel Lévinas, un philosophe juif français d'origine lituanienne. Voilà ce qu'il disait. L'accès au visage est d'emblée éthique. C'est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, que vous pouvez les décrire,
que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne même pas remarquer la couleur de ses yeux. Quand on observe la couleur des yeux, on n'est pas en relation sociale avec autrui. La relation avec le visage peut certes être dominée par la perception, mais ce qui est spécifiquement visage, c'est ce qui ne se réduit pas. Il y a d'abord la droiture même du visage, son exposition droite, sans défense. La peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus dénuée. La plus nue, bien que d'une nudité décente. La plus dénuée aussi. Il y a dans le visage une pauvreté essentielle. La preuve en est qu'on essaie de masquer cette pauvreté en donnant des poses, des contenances. Le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence. Et en même temps, le visage est ce qui nous interdit de tuer. Il y a dans l'apparition du visage un commandement, comme si un maître me parlait. Pourtant, en même temps, le visage d'autrui est dénué. C'est le pauvre pour lequel je peux tout et à qui je dois tout. Et moi, qui que je sois, mais en tant que première personne, je suis celui, lui, qui se trouve des ressources pour répondre à l'appel. En Jésus, Dieu a fait voir son visage dans toute sa grandeur et sa vulnérabilité. Il se donne pour être connu. Il se présente à nous pour que nous puissions recevoir la lumière de la vie. Cette lumière de la vie qui émanait du visage du Christ, un visage qui se donne à contempler, pas autant avec les yeux, mais avant tout avec les oreilles. L'avez-vous remarqué? Ou plutôt, l'avez-vous entendu? Pendant cette révélation, une voix s'est fait entendre. Une voix qui venait de la nuée qui entourait cette scène extraordinaire. Une nuée qui rappelle la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. De cette nuée, une voix a résonné. « Celui-ci est mon fils que j'ai choisi. Écoutez-le. » Cette voix ne dit pas « regardez-le », mais « écoutez-le, écoutez-le ». Ce visage, ne vous contentez pas de le regarder, mais écoutez-le. Lorsqu'il dit « il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, il sera tué et le troisième jour il ressuscitera », écoutez-le, écoutez cette parole. Ce visage de la transfiguration parle. Le visage du calvaire parle aussi. Et pourtant, il s'agit de la même personne, du même Jésus, du Seigneur de l'univers qui est venu dans le monde pour le sauver. Voir ce visage, c'est écouter sa voix, cette parole qui se donne. Recevoir encore aujourd'hui ce témoignage de la transfiguration, c'est notre révélation à nous aujourd'hui. Un témoignage auquel nous pouvons nous attacher alors que nous suivons le Christ sur notre propre chemin de croix. Là, au fond de notre cœur, il y a ce lumineux souvenir de Jésus à la transfiguration. Un souvenir qui nous aide à avancer chaque jour, qui nous est donné de vivre dans ce monde. Amen.
Effectivement, le visage de Jésus, c'est vraiment ce qui marque notre vie. Je pensais encore à une autre image, si tu arrives à la passer, le numéro 3. Cette semaine, je priais justement pour ce culte, j'essayais de réfléchir à tous les aspects. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu ça depuis ma fenêtre, depuis mon jardin. un magnifique arc-en-ciel. Et c'est un signe que Dieu a donné aussi, je crois que c'était à l'époque de Noé, pour montrer que Dieu était là. Et si on regarde bien cet arc-en-ciel, il va vraiment dans les nuages, au-dessus, il va dans le ciel, jusque sur la terre. Et c'est un signe que Dieu nous donne pour nous rappeler en fait de sa présence. Mais effectivement, le plus important, c'est le visage du Christ, de ce qu'il a fait pour nous. Alors je vous invite à un moment de partage, de prière. Je vais essayer de passer avec le micro, mais si je n'arrive pas à suivre, ne vous gênez pas de prier. Le but, c'est toujours la même chose, c'est que le maximum prie et le maximum d'entre nous puissent s'exprimer. Alors on connaît Dieu avec les yeux du cœur, et c'est l'occasion vraiment d'adorer, de louer. Concentrons-nous sur Dieu lui-même, sur Jésus, et évitons de prier juste que pour nos soucis. Par contre, si certains manquent de foi, si certains souhaiteraient qu'on prie pour eux, n'hésitez pas, il y a assez de frères et sœurs dans l'Église avec qui vous pouvez partager et prier. Alors je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta présence, merci parce que tu es là, merci parce que tu t'es révélé aux disciples, tu te révèles aussi à nous et tu consolides notre foi jour après jour. Amen. Vous pouvez lever la main pour prier, comme ça je me précipite vers vous. Seigneur, merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci parce que jour après jour, tu es là. Et parfois, nous avons la chance de comprendre, de percevoir ta présence, que ce soit en lisant la Bible, que ce soit en regardant le ciel. Tu nous visites tous les jours. Amen.
Allô? Moi, je priais pour Frédéric, un ami qui a 94 ans, qui vient de perdre son fils brutalement, mais qui ne croyait pas en Dieu. Je demande à Dieu de l'accueillir quand même avec lui. Amen.
Nous te remettons, Seigneur, cet homme de 94 ans dont on vient de nous parler. Et c'est vrai que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui accueille ce jeune homme ou cet homme qui est décédé, Seigneur, nous ne savons. Mais il y a une chose que nous voulons, c'est de nous confier en toi, et cela nous appelle aussi à parler, à être ton visage dans le monde d'aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur. Et merci parce que tu ne nous laisses pas seuls, tu es présent, comme il a été dit, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom. Tu nous connais par nos noms. Et Seigneur Jésus, tu es fidèle dans tes promesses. Sois loué, béni, adoré et remercié pour tout ce que tu fais pour les uns et les autres. Et pour notre communauté. Amen.
Oui, j'aimerais vraiment te dire merci, Jésus, parce que tu n'es pas un Dieu qui est silencieux, mais tu nous parles. Quand on s'approche de toi, quand on a envie de savoir dans quelle direction tu décides, tu désires qu'on aille, ben, tu nous diriges, tu nous montres, tu nous parles, et j'aimerais vraiment te remercier pour ta présence quotidienne auprès de moi. Amen.
Amen.
Oui, Seigneur, on a parlé de vulnérabilité. Et c'est vrai, Seigneur, que ta vulnérabilité nous rejoint à la nôtre, Seigneur Jésus. Et c'est vrai, Seigneur, que dans nos doutes, dans nos questionnements, dans tes non-réponses, Seigneur, nous rend vulnérables comme toi, tu étais vulnérable à la croix. Alors, Seigneur Jésus, merci aussi parce que dans cette transfiguration, il y a aussi cette espérance de voir ton visage, d'être transfiguré, Seigneur, d'être changé par ta présence. Alors, Seigneur Jésus, comme on l'a dit tout à l'heure, Seigneur, que nous puissions être ton visage autour de nous. Amen.
Oui, Seigneur, moi je veux te remercier parce que je t'ai donné un jour ma vie, tu t'es révélé à moi. Je veux te bénir ici dans cette église, Seigneur. Tu es ma vie, tu es ma paix, tu es mon salut et je crois en toi. Merci, c'est vrai, pour ta voix. C'est vrai que ton visage, ben, sincèrement, on ne l'a pas vu, mais ta voix, dans nos cœurs, on l'entend. Et je te demande de bénir tous ceux qui te cherchent, qui cherchent ta présence, qui cherchent quelque chose dans ce monde, qui cherchent ta paix, parce que tu es celui qui est venu pour apporter cette paix dans le cœur. Béni soit ton nom, Jésus. Amen.
Amen. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, pour ta présence en esprit, Seigneur, en vérité. Ce message, Seigneur, me fait penser à ce passage qui dit que nous tous qui avons visage découvert, contemplons la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, en esprit. Merci de transformer encore nos vies, Seigneur. De transformer, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, que nous soyons de plus en plus, Seigneur, semblables à toi, Seigneur. Que nous puissions de plus en plus te ressembler. Que nous soyons vraiment, que nous te verrons, Seigneur, face à face, Seigneur. Nous te soyons semblables, Seigneur. Merci parce que c'est ton Saint-Esprit, Seigneur, qui opère ces choses dans nos cœurs, dans nos vies. C'est l'effet de ta grâce, Seigneur, c'est l'effet de ton amour. C'est l'effet aussi, Seigneur, de pouvoir nous approcher de toi à visage découvert, Seigneur, sans tout ce qui nous retient, Seigneur. Vraiment, libère nos cœurs encore aujourd'hui, Seigneur. Libère nos vies, Seigneur, que nous soyons vraiment des chrétiens qui s'épanouissent en toi, Jésus. Amen, Seigneur.
Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes en Christ. Merci parce que c'est une joie de te connaître. Et comme ça a été dit tout à l'heure, tu renouvelles notre foi. Tu nous encourages jour après jour. Nous voulons vraiment te louer et t'adorer. Pas seulement ce matin au culte, mais aussi toute la semaine, tous les jours. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à chanter Le chant, c'est auprès de Dieu. Merci à l'équipe de louanges. Voilà, vous pouvez reprendre place. Quelques annonces, on dit à Raymond de venir, ensuite Claudie.
Ouais, vous avez constaté que depuis quelques temps déjà, les cultes ont repris un peu leur aspect normal avec Sainte-Seine. Bon, ce n'était pas le cas ce matin. Mais pour avoir une Sainte-Seine, il faut des petites préparations, des petites mains. Et c'est pour ça que je cherche un ou deux candidats pour faire ce service. C'est un service qui demande de venir un peu en avance, préparer la Sainte-Seine, sonner les cloches aussi, pour annoncer un peu au village qu'il y a un culte le matin. Jusqu'à maintenant, il y avait une petite équipe qui a assumé pendant ces 2 ans, mais surtout John qui l'a. Donc, cette petite équipe est encore composée de René Drault et Nicolas Dubost. Donc, ce serait bien d'avoir une ou deux personnes pour nous donner un coup de main. Merci.
J'espère que l'appel est entendu. Vous savez que Meyrin est une cité balnéaire. Alors, Claudie va nous parler de Meyrin-les-Bains.
Oui, je voulais juste vous dire un petit mot par rapport à Meyrin-les-Bains. Nous avons eu un débriefing avec la commune et je voulais juste remercier et les uns et les autres qui soient participés soit par la prière, soit pour être venus, parce que la cuisinière nous a dit que par rapport à toutes les équipes qui a eu lieu, qui se sont organisées durant ces 3 semaines, eh ben, l'église évangélique était la mieux préparée et la mieux organisée. Donc je voulais dire un grand merci à toutes les personnes qui ont participé.
Partager une petite chose que j'ai vécue dimanche dernier à l'école du dimanche. Parce qu'en fait, on parle actuellement de Joseph. Et on a parlé des rêves. Et j'ai parlé du fameux rêve de Jacob avec l'échelle et les anges qui montent et qui descendent. Et Célestine m'interrompt. Et pourquoi s'ils ne volent pas simplement ?
Encore une autre annonce. Une annonce réjouissante pour laquelle on va pouvoir applaudir. Il y a un couple qui fête ses 50 ans de mariage. Alors, on les félicite. Il s'agit de Paul Robert et Anne-Béatrice. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'ils nous invitent à un apéro pour fêter ça avec les amis de l'Église. Et je trouve que c'est très chouette. Alors, bravo. Donc, à la sortie du culte, tout à l'heure, vous êtes invités à un apéro offert par eux. Et c'est vraiment chouette de le faire au milieu de l'Église. Oui, bien sûr. Alors, viens ici.
Dire que tout est grâce. Nous aimerions dire avec Anne-Béatrice que tout est grâce. Et je disais tout à l'heure, 50 ans, à l'aune de l'éternité, c'est rien. Mais à nos yeux, c'est un demi-siècle. C'est quand même quelque chose. On y est quand même arrivé. Et comme je le disais, nous le disions, nous le pensons, c'est la grâce de Dieu. Et sa présence. Sa présence dans les moments où tout va bien, le vent souffle dans les voiles, une jolie brise, et les moments où il y a les creux de vagues, des moments où il faut tenir bon la barre, comme je disais à nos enfants, des moments où il faut se confier au GPS dont les données sont dans les mains de Dieu quand la brume nous cache la terre, dans cette croisière du mariage. Alors voilà, soyez les bienvenus, et c'est dans cette reconnaissance que nous voulions partager cela avec nos amis de la communauté de Meyrin que nous chérissons. Voilà.
Merci d'être nos amis et merci de participer maintenant avec nous à cette réjouissance.
Je voudrais quand même prier pour nos amis, puisqu'ils nous ont fait le cadeau de nous partager cette information. Oui, Seigneur, continue à bénir ce couple qui s'est donné corps et âme pour l'Église aussi, et nous te demandons de les accompagner dans les jours qui restent, dans les années qui viennent. Et merci pour tout ce que tu as fait dans leur vie de couple, dans leur vie de famille, et tout ce qu'ils ont apporté dans l'Église et qu'ils continuent à apporter. Merci parce que tu es présent, et c'est un exemple aussi pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen.
On se réjouit d'aller trinquer, hein, alors. Mardi 20 à 20h15, il y a la rencontre de prière. Où je serai là, attention. La semaine prochaine, dimanche prochain, on a un culte autour de la Sainte-Seine, et donc il y aura la Sainte-Seine. Et puis on va commencer une série d'ateliers bibliques avec Philippe. Je crois qu'il y a le flyer, voilà. Donc on commence mardi 27 septembre aussi à 20h15 et ça sera sur le thème de l'alliance ou de l'histoire de l'alliance à travers la Bible. Parce qu'on s'est dit qu'en fait ça pouvait être une bonne idée de retravailler cette question de l'alliance qui est quand même à la base de notre foi. Quand on parle de la Sainte-Seine, on dit en signe de la nouvelle alliance, mais on parle de quoi en fait? Donc on va traverser un peu l'histoire de l'alliance et le mardi 27, c'est moi qui animerai sur l'alliance dans le jardin d'Éden et aussi avec Noé. Donc voilà. On vous remercie aussi pour votre générosité. Vous pouvez continuer à nous faire les dons avec évidemment ce bulletin de versement qui a changé avec les codes QR. Et puis, nous sommes aussi avec Philippe, même s'il n'est pas là aujourd'hui, à votre disposition pour des visites, pour vous écouter, pour prier avec vous, pour voilà, être avec vous simplement. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale que je vous lis dans Jean 14. Donc, le disciple Philippe dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis avec vous depuis longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, au contraire, c'est le Père qui demeure en moi et accomplit ses œuvres. Que les œuvres du Seigneur se fassent dans vos vies. Que vous puissiez voir la face du Christ rayonner dans vos vies. Que vous soyez bénis, remplis de sa grâce, alors que vous parcourez vos propres chemins de vie. Que le Seigneur vous entoure de son amour, vous remplisse de sa paix tout au long de vos jours. Amen. Bon dimanche à chacun.